En dépit du succès des Texas Rangers face aux Comanches, les Texas Rangers n'avaient toujours pas réglé un important problème, leur armement. Leur fusil à un coup compliqué à recharger et leur vieux pistolet les désavantageaient énormément par rapport aux Comanches, dont les carquois pouvaient contenir jusqu'à 20 flèches. Ils ne voyaient pas d'issue. Ils avaient tenté d'adapter le fusil Kentucky pour le combat à cheval et avaient accompli de petits miracles, mais il demeurait peu commode. Il s'agissait toujours du vieux fusil rustique de Pennsylvanie qui avait transité par le Kentucky. Ses défauts expliquaient en grande partie l'agressivité frénétique des Rangers au combat. En restant immobiles, ils étaient certains de finir rapidement criblés de flèches. L'attaque frontale, en dépit des nombreux risques qu'elle comportait, était une option bien plus sûre. Vers la même époque, dans l'Est, en voie d'industrialisation, un homme s'apprêtait à faire aboutir un projet encore obscur qui résoudrait le problème des Texas Rangers et bouleverserait le monde. En 1830, Samuel Colt, un adolescent de 16 ans, ambitieux et féru de mécanismes complexes, conçut son premier pistolet revolver en bois. 6 ans plus tard, il déposa un brevet. En 1838, une entreprise basée à Paterson, dans le New Jersey, se mit à fabriquer les armes à feu de Colt. Parmi elles se trouvait un revolver de calibre 36, à 5 chambres, pourvu d'un canon octogonal et d'une gâchette qui apparaissait quand le pistolet était armé. Il ne s'agissait pas d'une découverte, mais de la première arme de ce genre produite pour un usage courant. Le seul problème, c'est que personne n'en voulait. Le client le plus évident, le gouvernement des États-Unis, n'en vit pas l'utilité et refusa de le financer. Le revolver de Colt aurait pu servir d'arme de poing à des cavaliers, mais à l'époque, l'armée des États-Unis n'avait pas de cavalerie. Il ne semblait pas davantage séduire les citoyens privés. C'était un joli joujou, bien cassé mal commode. Bizarrement, les seuls intéressés habitaient la lointaine et exotique République du Texas. En 1839, contre toute attente, le président Mirabeau Lamar ordonna à la marine du Texas de passer commande de 180 revolvers Colt à 5 coups auprès de la Patent Arms Manufacturing Company de Paterson. Par la suite, l'armée texane en exigea 40 de plus. Les pistolets furent expédiés et la facture réglée. Rien ne prouve réellement qu'ils aient jamais été utilisés par les marins ou d'autres troupes au service du gouvernement du Texas. C'était une arme obscure et peu commode, destinée à une composante non moins obscure et peu justifiée de l'armée du Texas, ou ce qui passait pour telle. Et c'est là que dormirent les armes. On ignore précisément comment ces revolvers atterrirent entre les mains de Jack Hayes et de ses Texas Rangers. Mais ce fut apparemment le cas. Dans la correspondance qu'il entretint par la suite avec Colt, Samuel Walker, l'un des lieutenants les plus célèbres de Hayes, déclara en avoir pris possession vers 1843. Peu importe la date, les Rangers comprirent aussitôt l'importance de ces armes. Ce fut une révélation. Une arme à plusieurs coups, susceptible d'être utilisée à cheval et donc de rétablir l'équilibre avec leurs adversaires. Le revolver de Colt avait de nombreux défauts. Il était fragile. Le calibre des balles était trop léger. Du 44 ou plus aurait été nécessaire. Il n'était pas très précis, sauf à courte portée. Il était muni de barillets préchargés, ce qui signifiait que les Rangers, équipés de 2 pistolets et de 4 barillets, disposaient de 40 tirs. mais ces derniers étaient difficiles à changer et, une fois vides, ne pouvaient être rechargés en plein combat. Le cylindre rotatif n'en demeurait pas moins essentiel et stupéfiant. Au printemps 1844, les Texas Rangers étaient prêts à tester sur le terrain l'invention étrange et impopulaire de Colt. La bataille de Walker's Creek, un engagement mineur mais décisif pour l'histoire du Texas et de l'Ouest américain, leur fournit cette occasion. En effet, on pourrait dire qu'avant l'arrivée de Jack Hays à San Antonio, la plupart des Américains de l'Ouest se déplaçaient à pied et possédaient des fusils Kentucky. Lorsqu'il s'en alla en 1849, ils étaient à cheval et portaient des 6 coups dans un étui. Walker's Creek marqua le début de ce changement. Au début du mois de juin 1844, Hays et 15 Rangers partirent en reconnaissance en amont du Pedernales et du Llano. Ils étaient dans la région des collines, à l'ouest d'Austin et de San Antonio, au cœur du territoire Penateca. N'ayant trouvé aucun Indien, ils prirent le chemin du retour. Le 8 juin, ils s'arrêtèrent pour récupérer du miel au bord de Walker's Creek, un affluent du Guadalupe, à 80 km environ de San Antonio. Hays avait demandé à 2 de ses hommes de s'attarder à l'arrière du groupe pour s'assurer qu'ils n'étaient pas suivis. C'était une vieille habitude indienne. Hays avait pris beaucoup de vieilles habitudes indiennes. Les 2 Rangers regagnèrent le camp à toute allure et l'informèrent qu'ils avaient repéré les traces de 10 Mustangs derrière eux. La compagnie se remit rapidement en selle et repartit en direction des Indiens. Tandis qu'ils s'approchaient, ils tombèrent sur 3 ou 4 guerriers qui affichèrent une peur excessive et détalèrent dans un désordre encore plus excessif. Une autre astuce indienne. Hays ne tomba pas dans le piège, il renonça à les poursuivre. Très vite, les autres Penatecas se montrèrent, 70 au total. Les Texans avancèrent lentement, tandis que les Indiens gagnaient le sommet d'une colline abrupte, une superbe redoute naturelle dans cette région rocheuse et accidentée, peuplée de chênes verts. De là, ils provoquèrent les Rangers, hurlant « chargez » en espagnol et en anglais. Hays s'exécuta volontiers, mais pas exactement comme il l'imaginait. Ses 14 hommes et lui-même étant momentanément dissimulés à la base de la colline, ils firent demi-tour et parcoururent 200 à 300 mètres au galop, contournèrent la colline, ressortirent derrière les Indiens et les attaquèrent par le flanc. Surpris, les Comanches parvinrent néanmoins à se ressaisir. Ils scindèrent leurs forces et se ruèrent sur les Texans en poussant des hurlements. En temps normal, ils auraient brisé la ligne des Rangers et les auraient mis en déroute. Mais ces derniers, affichant un courage impressionnant et une maîtrise remarquable de leur monture, formèrent un cercle et affrontèrent la charge. La suite, 75 Comanches Penatecas contre 15 Rangers, des lances et des flèches contre des pistolets à répétition, tourna au chaos sanglant. Plusieurs Rangers furent gravement blessés, mais leurs revolvers abattirent les Indiens à un rythme alarmant. Cette étape du combat dura 15 minutes. Puis, les Comanches rompirent les rangs et s'enfuirent. Les Rangers les poursuivirent pendant plus d'une heure sur 3 km de terrain accidenté. Poussés par leur chef, les Indiens n'eurent de cesse de se rallier, de se regrouper et d'attaquer, mais furent chaque fois surpassés par les revolvers Colt, cracheurs de feu. Ils comptaient 40 morts ou blessés, contre 1 mort et 4 blessés chez les Rangers. Mais ils firent face, le chef indien rassemblant encore et encore ses hommes. Puis, comme pour souligner la principale faiblesse du revolver à 5 coups, les hommes de Hays furent à court de munitions. Pour être plus précis, ils furent à court de barillets préchargés et personne n'avait d'autres pistolets. Ils se retrouvèrent donc à la merci des 35 Indiens restants. Ou du moins, ils le seraient quand ces derniers se rendraient compte que leurs adversaires n'avaient plus de munitions. Hayes demanda alors calmement à ses hommes s'il leur restait des balles. L'un d'eux, Robert Gillespie, s'avança et répondit par l'affirmative. « Descends de cheval et abat le chef !» lui ordonna Hayes. Gillespie s'exécuta. Éloigné de 30 pas, il fit tomber le chef de sa selle. Les guerriers, complètement affolés par la perte de leur meneur, s'éparpillèrent dans les broussailles. Une fois la fumée dissipée, les Comanches dénombrèrent 20 morts et 30 blessés, et les Rangers, 1 mort et 3 blessés graves. Bien qu'il fallût un certain temps pour que les colons de la frontière comprennent ce qui s'était passé à Walker's Creek et la guerre contre le Mexique, pour que le gouvernement des États-Unis ouvre également les yeux, un changement fondamental s'était produit. Les Indiens risquaient désormais d'être anéantis par des cavaliers munis de revolvers qui ne se vidaient jamais. Les Blancs pouvaient combattre leurs ennemis entièrement à cheval, avec des armes dont la cadence de tir était presque égale à celle des Comanches. Les forces s'équilibraient, ou même s'inversaient. « Jusqu'à cette époque, écrivit Samuel Walker dans une lettre adressée à Samuel Colt en 1846, ces Indiens audacieux s'étaient toujours crus supérieurs à nous, au corps à corps, à cheval. Le résultat de cet affrontement fut tel qu'il nous permit de les intimider et de traiter avec eux. Pourtant, à l'extérieur de la République du Texas, personne ne comprit ce que Sam Colt avait accompli. En 1844, 6 ans après la mise en production de ses pistolets à répétition, son invention était un échec. L'usine Patterson du New Jersey avait fait faillite en 1842. Colt parvint à conserver ses brevets, mais guère plus. Les prototypes et les plans de ses 6 coups étaient tous perdus ou détruits. Mais il savait que tout espoir n'était pas perdu. L'écho des prouesses des Rangers texans lui parvint jusque dans l'Est. Il en fut tellement excité qu'à l'automne 1846, il écrivit à Samuel Walker. « J'aimerais quelques informations sur votre usage de mon arme à répétition et votre avis quant à son adoption par les forces armées dans la guerre contre le Mexique. J'ai tellement entendu parler du colonel Hayes et de vos exploits avec mes armes que je souhaite depuis longtemps faire votre connaissance et obtenir de vous un récit authentique des diverses occasions où mes inventions se sont avérées bien plus qu'utiles. » Walker répondit aussitôt en décrivant l'efficacité des revolvers à la bataille de Walker's Creek. « Avec des améliorations, conclut-il, je pense qu'ils peuvent devenir l'arme la plus parfaite du monde pour les troupes montées. » Les perspectives de Sam Colt s'éclaircirent très rapidement. Lors de la guerre contre le Mexique, l'armée fut émerveillée par le Colt à 5 coups et sa redoutable précision. Au point que l'armée en voulut davantage, 1 000 000 pour être exact, de quoi équiper tous les Rangers et d'autres Texans au Mexique. Il y avait un seul problème. Cela faisait 5 ans que Colt n'avait pas fabriqué de revolver. Il n'avait ni argent ni usine pour les produire. Il ne possédait même plus un modèle en état de marche, si bien qu'il dut passer, en vain, une annonce dans les journaux de New York pour tenter d'en trouver. Il proposa malgré tout aux militaires de leur en vendre 1 000 000 à $25 pièce. En janvier 1847, le contrat signé, il convainquit un ami de fabriquer les pistolets. Il ne lui restait plus qu'à revoir complètement son arme. Un fait remarquable se produisit alors. Colt demanda à Samuel Walker, posté temporairement à Washington, de l'aider à concevoir ce nouveau revolver. C'est ainsi que débuta la collaboration entre les deux hommes, le ranger endurci de la frontière texane et le jeune Yankee ambitieux du Connecticut. Walker débordait d'idées. Il expliqua à Colt qu'il lui fallait un calibre plus gros et que le pistolet devait être plus lourd, plus solide, avec un canon plus long et une crosse également plus longue et plus pleine. Ces suggestions furent parfois très précises. Dans une lettre du 19 février 1847, il recommanda d'affiner l'arrière du canon et de fabriquer l'avant en argent allemand et d'une forme complètement différente. C'est Colt qui eut l'idée d'utiliser un barillet à 6 chambres au lieu de 5. Le résultat, le Colt Walker, fut l'une des innovations technologiques les plus efficaces et meurtrières. Ils tuèrent rapidement plus d'hommes au combat que toute autre arme de poing depuis le glaive romain. Il avait un énorme canon de 23 cm et pesait plus de 2 kg. Les chambres rotatives pouvaient contenir des balles de calibre 44, de près de 15 grammes chacune. La dose de poudre, 3,25 grammes de poudre noire, le rendait aussi mortel qu'un fusil jusqu'à 100 mètres. Sur son barillet était gravée une scène de la bataille de Walker's Creek telle qu'elle avait été décrite par Samuel Walker. Le cadeau de Sam Colt aux Rangers. L'image du ranger à cheval dégainant un Colt Walker est l'une des plus marquantes de la guerre contre le Mexique. Bien entendu, le revolver sauva Samuel Colt. Bien qu'il perdît quelques milliers de dollars sur ce contrat, il devint par la suite l'un des hommes les plus riches du pays.
Extrait du chapitre 10, L'innocent visage de la mort. De L'Empire de la Lune d'été par S. C. Gwynne.